Bonsoir à tous et à toutes. Yakuba Ouédraogo avec vous. Ravi de vous retrouver pour cette émission Sporama sur VOA Afrique. Et comme chaque semaine dans votre émission, les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs et auditrices, sur la page Facebook de VOA Afrique. Et nous attendons bien sûr vos appels en direct. Composez le plus 1 202 205 26 33. Je reprends, plus 1 202 205 26 33. Joselle Morissin et Sims Lumami, juste derrière la vitre pour prendre vos appels. Et puis, ils sont déjà là en ligne, nos intervenants habituels. J'ai nommé Jules Valentin Ngwe à Libreville, au Gabon. Donc, bonsoir, Jules.
Bonsoir, Yakuba. Bonsoir à tous.
Et puis, direction Boyukon au Bénin pour retrouver Élisée Oumpatine. Bonsoir, Élisée.
Yakuba et bienvenue au Bénin.
Amdine Si, c'est à Dakar. Nangadef, Amdine.
Magnifique, Yakuba, et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
C'est tout mon Wolof comme ça. Hein. Avec nous également Thierry Kamboundi de Top Congo FM, notre station partenaire. Thierry, je ne te dirai pas bonsoir en Lingala. Je te dirai tout simplement bonsoir.
Bonsoir, Yakuba. Bienvenue à Kinshasa.
Merci à tous de votre présence ce soir. Merci également à vous, chers auditeurs. C'est une semaine de Ligue des Champions et ça commence demain encore. Et on aura un choc, un match au sommet, Chelsea-FC Barcelone, un match aller des huitièmes de finale. Un choc qui se résume, qui semble, faut le dire comme ça, se résumer à un exploit où il apporte à la fin de la saison pour le technicien italien de Chelsea, Antonio Conte. Mission moins compliquée a priori pour Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, pour la réception de Besiktas. Amdine, je commence par vous et vous savez sans doute pourquoi. Chelsea FC Barcelone demain, moins médiatisé que Real Madrid PSG, mais n'empêche, cela reste un choc.
Oui, vous avez raison, parce que Chelsea-Barcelone, ça est toujours des matchs très 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 difficiles. Mais si on regarde comme les statistiques, c'est Chelsea qui part un peu en la faveur des progressifs, parce qu'on se rappelle encore en 2012, les Blues de Chelsea avaient éliminé le FC Barcelone avant de remporter pour la première fois de l'histoire le trophée aux grandes oreilles face au Bayern de Munich. Donc Chelsea partira favori si on regarde les statistiques seulement, parce que si on regarde aussi les statistiques, le Barça s'est toujours imposé face au club anglais. Car sur les 7 derniers matchs, les 6 matchs contre les Anglais ont été remportés par le FC Barcelone. Donc il y a une petite seule défaite. Et malheureusement, c'était face à cette équipe de Chelsea. Et si on regarde aussi les confrontations entre les deux équipes, c'est toujours Chelsea qui a l'avantage. Et je dirais même que c'est sur le gâteau pour les Anglais. En 8 confrontations, Lionel Messi n'a jamais marqué contre Chelsea. En 29 tirs, il n'a jamais marqué contre Chelsea. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Yakuba.
Alors, Amdine, qui nous renvoie carrément dans l'historique des rencontres entre ces deux formations-là. Élisée, quand on évoque bien sûr ce match Chelsea-FC Barcelone, on ne peut s'empêcher de penser à la rencontre de 2009 entre les deux clubs, avec ce match retour scandaleux à Stamford Bridge, 1-1, super but de Michael Essien, et égalisation en fin de rencontre par Iniesta, mais on retiendra surtout les pénaltys non sifflés pour Chelsea. Est-ce qu'il y a de la revanche en prenant l'air?
Forcément, Yakuba, vous l'avez dit, puisque c'était Chelsea qui devrait remporter ce match. On a vu le coup de gueule de Didier Drogba à la fin de cette rencontre devant les caméras de l'UEFA, ce qui lui a valu une sanction de 2 matchs lors de la des matchs de poule de la rencontre de la Ligue des Champions qui a suivi, j'allais dire. Donc, je dis que c'était un match très difficile à oublier côté Chelsea. Cette fois, c'est une revanche. Puisque aujourd'hui, Chelsea, qui a du mal à enchaîner en première ligue, le Barça qui cartonne actuellement dans la Liga espagnole. En tout cas, les deux équipes sont en train de connaître des situations différentes et elles vont affronter pour un beau résultat en attendant le match retour. Une chose est sûre, Chelsea, avec Antonio Conte, d'ailleurs, l'entraîneur qui a dit qu'ils feront un bon résultat, ils vont essayer de contrecaler Lionel Messi, soit de chercher un bon résultat, puisque ça va se jouer en aller et retour. Rien n'est encore joué lors du match aller. Il ne faut pas encaisser. Et donc, c'est-à-dire que Antonio Conte pense déjà au match retour et qu'il sait que tout va se jouer du côté de Nou Camp. Une chose, si vous l'avez posé cette question, ce sera une revanche hein, pour les Blues. Ils vont vouloir remporter un match à domicile contre le FC Barcelone, puisque dans les années 2010, on se rappelle que Chelsea et Barcelone s'affrontent souvent et on a souvent eu lieu à de très belles affiches. Une fois encore, cette belle affiche aura lieu au niveau de l'huitième de finale de cette Ligue des Champions.
Alors, Jules, en Première Ligue, Chelsea n'a gagné que deux fois lors de ses six dernières journées disputées en 2018. Pour deux nuls et deux humiliations à domicile, on se rappelle encore contre Bournemouth 3-0 et à Watford 4-1. Le Barça, lui, a souffert, hein, mais a gagné hier dimanche contre Eibar 2-0. Est-ce du 50-50?
Oui, on pourrait dire du 50-50 puisque ça se joue à Chelsea, mais il faut dire que vraiment les données ont changé. Le Chelsea des années 2000 et 2010 était plutôt un bad boy, méchant en défense, opportuniste et tactiquement très rusé sous la houlette de Mourinho. Et c'est lui qui faisait déjouer plutôt Barcelone, qui avait des lacunes défensives, notamment dans le jeu aérien. Maintenant, Chelsea est devenu plutôt agréable et romantique dans le jeu. Et se rapproche de Barcelone de ce côté, qui est un modèle du genre. Mais Barcelone a gagné du métier et a surtout su combler cette lacune traditionnelle qu'était le jeu aérien et la rigueur défensive. Bon, donc, réellement, quand les deux équipes se présentent sur le terrain à armes égales, normalement, actuellement, Barcelone va favori. Mais le match se joue à Londres et les équipes anglaises ont le vent en poupe. Donc, je crois que ce sera du 50-50.
Alors, Thierry, d'aucuns résument ce match-là en un exploit ou la porte à la fin de la saison pour le technicien italien de Chelsea, Antonio Conte. Est-ce que vous êtes d'avis?
Non, je ne suis pas d'avis. Hein. C'est vrai qu'Antonio Conte est en position un peu délicate. Il n'est plus en odeur de sainteté avec le tout-puissant président de cette formation de Chelsea, malgré la merveilleuse saison qu'il a passée, le titre qu'il a remporté cette année. Ça va plutôt mal. Du côté de FC Barcelone, malgré le départ de Neymar au Paris Saint-Germain, Valverde a essayé de trouver une formule qui marche pour le moment parce que Barcelone, n'oubliez pas, est leader de la Ligue avec 7 points d'avance par rapport à son poursuivant direct, l'Atlético Madrid. Et Barcelone est qualifié pour la Coupe du Roi. Donc pour le moment, ils sont en train progressivement d'atteindre quelques-uns de leurs objectifs de la saison. Antonio Conte mise essentiellement sur cette Champions League. Il y joue sa place, je pourrais dire, hein, sur les deux confrontations. En tout cas, il y joue sa place parce qu'il ne faut pas rêver, il ne pourra plus atteindre Manchester City et de Pep Guardiola en première ligue. Donc il ne pourra plus logiquement essayer de remporter un deuxième titre en autant de saisons. Il mise sur ce match. Il a eu beaucoup de temps pour le préparer, mais ça ne sera pas facile. Hein. On a parlé de la revanche de 2009 pour Chelsea, mais parlons plus fraîchement de 2012 que le premier intervenant a évoqué tout à l'heure. Le FC Barcelone a été également éliminé par cette formation en demi-finale de 2012, la génération de Didier Drogba qui a par la suite remporté la compétition. Donc c'est un match qui s'annonce très disputé. C'est quasiment moitié-moitié, même si je mettrais légèrement une avance pour le FC Barcelone qui m'a l'air un peu mieux. C'est vrai que ces derniers temps en championnat, ils ont connu un coup de mou, mais c'est aussi tenant compte de leur mois de janvier qui était très très chargé avec des matchs très compliqués en championnat comme en Coupe du Roi. Mais Barcelone m'a l'air mieux en forme et mieux en confiance que les Blues de Chelsea.
Alors, on a un auditeur en ligne, Diallo. Bonsoir.
Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir à l'entraînement.
Alors, vous voudrez justement réagir sur ce choc, hein, Chelsea FC Barcelone, on vous écoute.
Oui, tout à fait. C'est un grand match qui doit jouer cette semaine. Vraiment, nous pensons que cette match fera plaisir aux supporters du Grand Barça. Parce que si on arrive à évaluer ces deux clubs cette saison, vraiment, je ne vois pas Chelsea en quart de finale. Le Barça va remporter dès le match d'aller pour qualifier. Le retour sera que pour l'ambiance à Nou Camp, à mon avis.
Alors, mercredi, on aura également les rencontres FC Séville, Manchester United et Shakhtar, hein, Donetsk, AS Rome. Ce n'est pas l'assurance, hein, chez les Mancuniens, Élysée.
Non, étant un supporter de Manchester United,
je dis, pour cette dernière rencontre, il faut dire que l'entraîneur est portugais de Manchester United, José Mourinho, a des difficultés à enchaîner des victoires, avec à la clé même quelques problèmes à l'interne avec un certain le français, Pogba, voilà, j'y arrive, qui a été écarté lors du dernier match du club masculin, c'était le week-end écoulé contre Huddersfield en coupe dans la coupe d'Angleterre. Donc il n'y a pas de sénérité pour le moment, mais qui connaît José Mourinho pour le rencontre peut-être à assurer, puisque l'homme maîtrise l'expérience de la Ligue des Champions, et surtout du côté de FC Séville aussi, ça ne va pas, c'est pas aussi la sérénité. Le club andalou a même changé son entraîneur, et c'est désormais un Italien qui a la tête, qui a commencé par enchaîner aussi des victoires. Aujourd'hui, cinquième de la Ligue espagnole, derrière le Real Madrid, café quatrième. Ça veut dire qu'on aura une très belle affiche, mais attention, puisque Manchester United, depuis le début de cette compétition, a montré une très belle visage, j'allais dire. C'est vrai qu'elle a écroulé complètement du côté de Bâle, et le club en a appris à ses dépens. Ça va donner une très belle affiche, mais attention, attention, puisque Montella n'a pas encore dit son dernier mot. Il est venu du côté de Séville pour permettre à ce club d'aller très loin. Et José Mourinho aussi a été réculté par les dirigeants de Manchester United pour chercher des titres qui manquent à cette équipe depuis que Sir Alex Ferguson a laissé cette formation.
Alors, Amdine, c'est une mission qui s'annonce apparemment, a priori on va le dire comme ça, moins compliquée pour Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern Munich, qui dit avoir son effectif au quasi complet pour cette réception du Beşiktaş, qui a deux vainqueurs de l'Euro 2016, il faut le rappeler, dans ses rangs, en personne bien sûr de Ricardo Quaresma et de Pepe.
Oui, tout à fait, vous avez raison, Yacouba, mais le Bayern, depuis l'arrivée de Jupp Heynckes, a vraiment changé. C'est une équipe qui a du spectacle et efficacité, et ils partiront largement avec la faveur des pronostics, que non seulement les cadres comme Ribéry qui reviennent en forme sont là, mais il y a aussi des jeunes loups aux dents longues qui font des matchs extraordinaires comme le français Coman. C'est pourquoi l'équipe du Bayern est impeccable dans cette Ligue des Champions. Moi, je pense même qu'ils vont partir avec la faveur des pronostics pour remporter cette Ligue des Champions, puisque le Bayern non seulement allie spectacle et efficacité, mais c'est une équipe qui n'a pas de problème par rapport aux autres équipes comme le Real, comme le Paris Saint-Germain ou Manchester United dont on parlait tout à l'heure. Au niveau du Bayern, c'est le calme au niveau du staff depuis qu'on a remplacé Ancelotti, et ça donne des résultats. Je pense qu'ils vont partir avec la faveur de pronostics. Pour moi, c'est presque du 80-20 pour ce match. Le Bayern est presque caché. Même si en football, on ne peut pas gagner un match avant de l'avoir joué. Mais je pense que le Bayern va s'en sortir, Yacouba.
Merci bien, Amdine. Bavon Bamanaï nous appelle de la Guinée. Bonsoir, Bavon.
Bonsoir, la part de la Belgique. Je vous appelle de la RDC.
Ah, ok.
Précisément dans la ville de Mouret, la province de Lomami, au centre de la RDC.
Merci bien pour la précision, allez-y.
Oui, je voulais intervenir à propos du sélectionneur, du dossier des candidats au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de la sélection guinéenne. Hein.
Ok, allez-y, on va y revenir de toute façon, allez-y rapidement.
Oui, je souhaiterais qu'on puisse recruter un expatrié qualifié à la place des sélectionneurs locaux, parce que vous avez vu avec Lape Bangoura, bien qu'il a abattu un bon travail, mais les résultats ne suivent pas. Avec Flora Ibeni que nous avons ici à l'RDC, même, c'est la même chose. Malgré une potentialité qu'il a de bons joueurs de qualité, mais il n'a pas pu qualifier l'équipe nationale, les Léopards, à la Coupe du Monde de la Russie 2018. Raison pour laquelle je souhaiterais qu'on puisse prendre quelqu'un de qualifié, donc un expatrié senior.
Merci bien, vous allez vite en besoin, c'est pas grave, on va y revenir de toute façon. Alors, on va marquer une pause dans cette. Yacouba Ouédraogo, avec vous ce soir pour Sporama. Alors Jules, on va placer un mot sur les merengues en Liga. Le Real Madrid a enchaîné après sa victoire contre le PSG en Ligue des Champions, on se rappelle encore. Le Real a enchaîné après sa victoire contre le PSG en Ligue des Champions. Mais par contre, le Real a gagné 3-5 face à Betis. C'était le samedi dernier en Liga. Alors, est-ce qu'on pourrait parler d'un réveil des merengues?
Oui, bien sûr. Le match contre Paris, qui était un match de référence, a servi de déclic pour les merengues, même si on voit que jusque-là, l'équipe n'a pas encore atteint son vrai régime qu'on lui connaît. Parce que de temps en temps, on voit les merengues marcher sur le terrain, alors que c'est en temps normal, c'est des joueurs qui parcourent des kilomètres sans répit pratiquement. Donc ça a effectivement été un tournant, mais ça reste à confirmer.
Alors, sans transition, nous allons parler à présent de la Guinée. C'est plus de 80 candidatures pour le poste de sélectionneur du Sili National. La succession de Lapé Bangoura est ouverte et Bavon Bamanaï nous en parlait tout à l'heure. Il a été limogé lors du CHAN 2018. La Fédération guinéenne de football dit avoir reçu plus de 80 dossiers et d'après la presse locale, des techniciens africains à l'estade de l'Ivoirien François Zahoui ont postulé, tout comme Diabobo Baldé, ancien capitaine du Sili National. L'Italien Marco Simone a aussi postulé, les Français Roger Lemaire, Michel Dussuet qui veut revenir. On a aussi deux Belges, Hugo Bros et Paul Puit. Paul Puit qui a démissionné même aujourd'hui de son poste de sélectionneur de l'équipe kényane après seulement 2 mois de fonction. Alors Amdine, un local ou un expatrié pour succéder à Lapé Bangoura?
Pour moi, il n'y a pas de couleur pour choisir un entraîneur, que ce soit un Japonais, un Sénégalais ou un Burkinabé. L'essentiel, c'est de prendre un très bon technicien. Mais il faut se mettre des candidatures farfelues. Il y en a beaucoup, surtout chez les chaussiers blancs. Il faut prendre le temps et choisir vraiment un très bon entraîneur, puisque l'échec de Fernandez, l'ancien militaire de l'équipe de France, doit servir de leçon aux responsables du football guinéen, parce que lorsque Fernandez avait signé avec la Guinée, il était resté comme consultant pour une radio française et il était basé en France au lieu de se baser en Guinée, ce que j'avais trouvé vraiment irrespectueux de la part de Luis Fernandez. Donc les Français doivent faire attention. Quelqu'un comme Zahoui, qui a déjà fait des résultats avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, pourrait faire l'affaire. Un Français comme Roger Lemaire, qui a eu à faire ses preuves au niveau non seulement de la France, mais au niveau aussi des aigles de Carthage de la Tunisie. Donc, ils sont là, les bons entraîneurs sont là. L'essentiel de faire le bon choix, ne pas se tromper de casting, Yacouba.
Alors, Thierry, la Guinée est sortie dès les phases de poule du CHAN 2018. Des joueurs, le pays en régorge. Votre compatriote Bavon en parlait tout à l'heure. Est-ce un problème des sélectionneurs? Est-ce un problème d'un entraîneur local ou encore d'un entraîneur expatrié?
Local ou expatrié, peu importe pour moi. Il faut un entraîneur compétent pour essayer de tirer cette équipe ou d'essayer de bonifier le travail fait par Lapé Bangoura. Vous savez, j'étais à Conakry l'année dernière pour accompagner les Léopards de la RDC à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du Monde. J'ai vu une génération formidable, pétrie de talent, qui sait jouer au ballon. C'est d'ailleurs certainement ce qui justifie la kyrielle des dossiers déposés par les techniciens qualifiés, qui ont certainement suivi cette équipe de Guinée et qui savent qu'il y a du talent, il y a quelque chose à aller chercher avec cette sélection. Donc il faut un entraîneur compétent qui va rester sur place, qui va suivre également le championnat national, qui produit des bonnes choses, et un bon staff qui pourra superviser également tous ces jeunes talents susceptibles des régions de l'Union nationale qui sont déjà internationaux guinéens, pour pouvoir permettre à cette formation de briller lors des prochaines aventures africaines ou internationales. La Guinée mérite un bon entraîneur car c'est un pays qui a aujourd'hui une très 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 belle génération de jeunes joueurs.
Alors Jules, vous êtes d'avis avec Élisée et Amdine tout à l'heure, peu importe que ce soit un expatrié ou encore un entraîneur local, pourvu qu'il ait les compétences nécessaires pour faire l'affaire.
Oui, bien sûr. On voit un entraîneur local faire l'affaire au Sénégal ou bien à RDC, pour moi, c'est bon travail. Mais il y a une chose aussi avec les entraîneurs expatriés, c'est que généralement, leur feuille de route est respectée par les dirigeants de notre footballiste. C'est un avantage aussi. Mais seulement au niveau de la Guinée, par exemple, comme pour la plupart des grandes équipes, des grandes nations de football que nous avons, et On attend des résultats immédiats de l'équipe Fagnon. C'est pas pour aller refaire le football de la Guinée. Donc, c'est une question de coaching. Et à ce titre-là, le Maroc, par exemple, a frappé à la bonne porte. Il faut quelqu'un qui peut gagner et qui peut apporter des résultats immédiats à la Guinée en faisant du bon coaching avec des professionnels. Ce sont pour la plupart des professionnels qui viennent d'horizons divers.
On a un auditeur en ligne. Serge, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Comment vous allez?
Oui, ça semble aller.
On vous écoute, allez-y très rapidement.
Oui, non, si nous parlons de la Guinée, bon, le problème c'est qu'il est là. D'abord, on doit d'abord, la fédération doit savoir d'abord gérer les choses, d'organiser une colère pour savoir qu'est-ce qui ne va pas avec le football de Guinée, ce qui est d'abord plus important. Parce qu'aujourd'hui, avoir un entraîneur expatrié au local, cela aussi dépend aussi de la volonté des acteurs. Il faut que l'entraîneur puisse avoir la confiance de ses joueurs. Parce que si nous retournons par exemple le cas de la RDC, il y avait beaucoup d'entraîneurs, tant des expatriés que les locaux qui sont passés. Mais comme il n'y avait pas une volonté entre les joueurs ainsi que l'entraîneur, il n'y avait pas de l'entente ou de bonnes relations. Il n'y avait pas de résultats. Mais aujourd'hui, ce que nous pouvons dire pour la Guinée, c'est une grande nation de football. Donc, la fédération aussi doit aussi faire un effort de connaître où sont les failles, qu'est-ce qui ne marche pas. On peut avoir des entraîneurs, des partis ou locaux, mais de savoir comment gérer le football. Si nous voyons la prestation des joueurs, ce sont des bons joueurs.
Merci bien, Serge. On vous a très bien compris. Alors, on va marquer une seconde pause. Dans ce programme, on revient. On parle cette fois-ci de l'organisation du Mondial 2026. Le Biden United 2026, composé des États-Unis, du Mexique, du Canada, a présenté sa candidature au Mondial 2026 lors d'une réunion de la COSAFA, la CONCACAF. Cette situation semble offusquer le Maroc, empêché par la FIFA de faire pareil lors du dernier congrès de la CAF à Casa. Élysée, les règles doivent être les mêmes pour tous.
Oui, Yacouba, puisque aujourd'hui on parle de deux poids, deux mesures, puisque le rival du Maroc est le trio, vous l'avez dit, USA, États-Unis, Mexique, Canada, a pu présenter son dossier au cours d'une réunion de la zone en COSAFA, le conseil des associations de football d'Afrique australe face à cette polémique. Le président de l'instance présidente du ballon rond, Gianni Patrouillet, aussi dissidente, c'est vrai qu'il a parlé de ce thème. Il ne faut pas tomber dans les théories de conspiration. Pour cette Coupe du monde 2026, on a décidé d'établir un règlement strict et clair. Les candidats n'ont pas le droit de présenter leur candidature. Et parce que la CAF n'a pas pu faire du côté du Maroc, vous l'avez dit, Yacouba. Bizarrement, on a vu le trio composé des États-Unis, du Mexique, Canada présenter leur candidature au niveau de la COSAFA. Maintenant, j'ai une panique importante ici. Et que les candidats peuvent le faire sur demande de la FIFA. Puisque le trio l'a demandé, et si le Maroc veut faire de même, eh bien, le Maroc n'a qu'à se rapprocher de la FIFA et que le Maroc pourra présenter sa candidature à cette zone de la COSAFA. Pourquoi pas dans les autres zones de l'Afrique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, je l'ai dit tantôt, qu'on parle de deux fois de mesure. Qu'est-ce qui se cache derrière les propos de l'homme puissant, le numéro 1 du football mondial aujourd'hui, puisque au Maroc, le Maroc n'a pas pu présenter sa candidature aux 56 membres.
Élysée, ce serait votre conclusion.
Allô?
Allô, oui, allez-y, ce serait votre conclusion en même temps. 15 secondes.
Ok, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on arrête là pour dire qu'on attend prochainement la décision de la FIFA par rapport à la candidature du Maroc. Est-ce que les Marocains auront aussi les mêmes faveurs que le trio composé des États-Unis, du Mexique et du Canada?
Merci bien à vous, Élysée. Bonne soirée à Boïcon. Thierry Kamboudi, bonsoir.
Bonsoir, Yacouba. Bonsoir à tous et à lundi prochain.
Merci à Amdine Si également à Dakar. Bonsoir, Amdine.
Bonsoir, Yacouba. Et à lundi prochain pour un autre numéro de Sportrama.
Et Jules Valentin Ngwe, c'est à Libreville, pardon, au Gabon. Bonsoir, Jules. Alors, il nous a quittés plus tôt. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis. C'était Yacouba Ouédraogo dans Sporama. Excellente suite de soirée sur VOA Afrique.